Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Énergie et alimentation mondiale au prisme de la guerre en Ukraine, voilà pour cette deuxième édition de géopolitique du week-end consacrée à ces questions. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a renforcé les chocs sur les marchés énergétiques et agricoles. L'Union européenne a compris le coût de sa dépendance aux hydrocarbures russes et cherche à accélérer la diversification de ses approvisionnements et de son mix énergétique. L'Europe devra-t-elle aussi réduire sa consommation au risque de freiner son économie? Et le climat dans tout cela? La sécurité énergétique l'emportera-t-elle sur les objectifs climatiques? Quel défi pour l'Europe et le reste du monde? Nous retrouvons par téléphone les mêmes invités qu'hier, depuis Bordeaux, Yves Jégourel, co-directeur du Cercle Cyclope, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire économie des matières premières. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Di Meglio, président d'Asia Centre, bonjour.
Bonjour.
Marc-Antoine Aïl-Mazega, directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, bonjour.
Ravi de vous retrouver.
Et François Luguenot, analyste de marché de matières premières agricoles, directeur de FL Consultant, bonjour.
Bonjour.
On a terminé l'émission d'hier sur les questions liées au climat. Vous l'avez évoqué, Marc-Antoine Aïl-Mazega, ce retour peut-être du charbon en Chine, en Inde également. On n'a pas eu le temps de revenir sur les questions de la Russie à proprement parler, ses objectifs et finalement la réorientation des flux gaziers qui se sont donc taris à destination de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe pour le gaz russe aujourd'hui, Yves Jégourel? Des informations selon lesquelles une partie de ce gaz russe serait brûlée à ciel ouvert. Et puis, est-ce que précisément l'Asie bénéficie de ces nouveaux flux?
Alors écoutez, il faut distinguer une nouvelle fois la problématique du GNL et la problématique des gazoducs. Il faut en fait regarder les chiffres sur cet équilibre entre cette interdépendance entre l'Europe et la Russie. L'Europe a importé en 2021 341 milliards de mètres cubes, dont 167 milliards en provenance de Russie. Et la Russie a, elle, exporté au total 241 milliards de mètres cubes. Donc on voit bien que la Russie est extrêmement dépendante du marché européen. Elle a cette volonté de se tourner, de se diversifier, d'aller vers l'Asie. Au niveau du gas pipe, des gazoducs, il y a Power of Siberia, mais je parle sous le contrôle de Marc-Antoine, la capacité est à 38 milliards de mètres cubes. Il y a le deuxième projet de Power of Siberia 2 qui va alimenter la Chine. Mais on voit bien que le retournement complet, ou en tout cas un retournement important des flux, je parle bien évidemment du gaz pipe, vers l'Asie est limité. Ensuite se pose évidemment la question du GNL, mais la Russie n'est pas leader sur ce marché-là, puisqu'elle a en face d'elle l'Australie, elle a le Qatar et bien évidemment les États-Unis, avec en plus un certain nombre de projets qui devraient arriver à maturité et qui, je l'espère, vont permettre à l'Europe de diversifier ses sources d'approvisionnement.
Marc-Antoine Aïl-Mazega, vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que Yves Jégourel vient de dire?
Non, je confirme, si vous voulez, la grande question pour l'avenir des marchés du gaz et du pétrole dans le monde, c'est effectivement qu'est-ce qui va rester de cette superpuissance énergétique qui était la Russie. C'était un super exportateur, numéro un dans le gaz, numéro 2 ou parfois numéro 1 dans le pétrole, dans le top 5 dans le charbon, sans parler des métaux, etc. Qu'est-ce qui va en rester? Une chose est sûre, c'est que vers l'Europe, il y a très peu de perspectives de reprise à court et moyen terme des flux. Donc là, les choses vont se tarir et le rebasculement que décrit Yves va être très lent, très compliqué, très cher. Et donc, évidemment, il y aura un manque de ce fait sur les marchés mondiaux. Et là, la question du coup, c'est quelle sera l'ampleur de ce manque et puis qui va pouvoir le combler? Et si on n'arrive pas à le combler, quelles seront les conséquences sur les autres énergies fossiles ou sur les autres technologies de production d'énergie ou solutions de production d'énergie? Et dernier point, évidemment, quels seront les impacts budgétaires et macroéconomiques sur la Russie? A priori, les choses vont se dégrader.
Alors, on l'a compris, Marc-Antoine Aïl-Mazega, le gaz russe, s'il disparaît du marché européen, il ne va pas revenir. On n'a pas beaucoup parlé du pétrole.
Ça, c'est effectivement le grand sujet, j'allais dire, du moment, parce que on est à 2 mois et demi de l'entrée en vigueur de l'embargo de l'Union européenne sur les approvisionnements pétroliers russes. On est en plein travaux de mise en œuvre d'une décision qui a été actée par le G7 de mettre en place un prix plafond pour le pétrole russe et qui vise à en fait imposer à tous les acheteurs de pétrole russe dans le monde qui utilisent des services ou des navires et qui proviennent des pays du G7 ou de l'Union européenne, eh bien, de limiter en tout cas le prix des cargaisons de brut russe ou de produits pétroliers russes qui sont transportés, pour, d'une part, permettre quand même encore aux hydrocarbures russes d'atteindre les marchés mondiaux pour ne pas provoquer de choc d'offres, mais d'autre part, de quand même limiter très très fortement les revenus budgétaires russes et de fait d'opérer un transfert de la valeur ajoutée, des bénéfices, de la rente, d'une certaine façon, de la Russie vers les consommateurs. Et c'est un processus extraordinairement complexe. Le marché pétrolier est l'un des plus liquides, mais il est sous tension. On l'a vu avec l'OPEP qui vient de décider de réduire un petit peu sa production. La wild card, c'est évidemment l'éventuel retour de l'Iran sur les marchés que l'on voit bien. Je pense que c'est ça qui préoccupe davantage l'OPEP en ce moment que, en réalité, ce prix plafond sur le price cap sur le pétrole. Mais voilà, là aussi, beaucoup d'incertitudes. Les prix, là, heureusement, ont décéléré parce que cela aurait accéléré les tendances, évidemment, inflationnistes et de fait la récession. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de chocs et la volatilité va rester élevée.
Alors, vous évoquiez l'Iran, on n'a pas parlé du Venezuela, mais deux pays sur lesquels, c'est un peu la nouveauté sur fond de guerre en Ukraine, les États-Unis ont décidé d'assouplir leur position. Marc-Antoine Almaviga.
Oui, alors ce sont en réalité effectivement dans le monde, il y a beaucoup de producteurs, de gros producteurs de pétrole qui sont sous sanctions. Il y a bien sûr la Russie, il y a l'Iran, il y a le Venezuela. Et dans un certain nombre d'autres producteurs, il y a des gros problèmes comme la Libye. Alors sur le Venezuela, le problème c'est que quand bien même on assouplit les sanctions, etc., la production sera très très lente à revenir parce que l'infrastructure du pays est détruite et il n'y a plus personne pour opérer des infrastructures. Tous les techniciens, les ingénieurs, etc., sont partis soit ailleurs en Amérique latine, soit aux États-Unis, et ils n'ont pas l'intention de revenir dans un pays avec une telle insécurité, etc., etc. Même si on vous propose 50 000 dollars par mois pour aller y travailler, vous n'y retournez pas avec votre famille, c'est trop dangereux, etc. Donc là, ça se joue plus sur le temps long. L'Iran, par contre, elle garde des capacités de remise sur les marchés très rapides. Donc on pense qu'à un horizon de 6 mois, elle pourrait remettre au moins 1 million de barils le jour à l'export, voire à plus. Et là, il y a une vraie marge de flexibilité qui pourrait être activée.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors l'Iran, dont la Chine importe beaucoup de pétrole, Jean-François Dimelio, on a vu cette semaine Vladimir Poutine annoncer son désir de pivot vers l'Asie et cette ambition de réconcilier l'Inde, le Pakistan et la Chine. Comment est-ce que la Chine perçoit peut-être cette réorientation de la Russie, Jean-François Dimelio?
Comme je dis très souvent, il y a un très beau livre sur « Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping ?» de François Bougon, mais c'est quand même un exercice très difficile. Donc, comment est-ce que la Chine voit la Russie? Je dirais que, objectivement, sauf si effectivement la vision subjective des dirigeants chinois est différente, la Russie, c'est une opportunité extraordinaire pour la Chine, mais pas une opportunité de partenariat. C'est une opportunité de vide à occuper. Le pivot asiatique de Poutine, c'est quand même le pivot vers une région qui a été, d'une certaine façon, laissée en friche à la fois du point de vue population et du point de vue équipement. Quand on va se balader en Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, on n'est pas du tout dans la même Russie que lorsqu'on est à Pétersbourg ou qu'on est à Moscou. C'est une Russie qui, je dirais presque comme à l'époque des décembristes au XIXe siècle, est une Russie qui, bien sûr, est assise sur des matières premières, mais a été un peu laissée à l'abandon. Donc, du point de vue chinois, on imagine assez facilement que c'est un potentiel d'expansion. Néanmoins, ce potentiel d'expansion, y compris avec des populations chinoises qui, elles, sont nombreuses à la frontière sino-sibérienne. Il ne faut l'acquérir qu'à un prix cassé. On ne va pas s'amuser à faire ce que les Russes n'ont pas fait. Donc je pense qu'on n'est pas du tout à la veille d'un développement conjoint d'une zone d'expansion. Et quant à l'autre axe que vous avez évoqué, Inde-Russie, il faut quand même se souvenir que même si on a eu un sommet des BRICS dans lequel l'Inde est présente, l'Inde, elle fait quand même partie de quelque chose qui s'appelle la stratégie indo-pacifique des États-Unis et que, entre autres, parmi les fournisseurs de matériel militaire à l'Inde, eh bien, il y a notre pays. Donc l'Inde a jusqu'à nouvel ordre, même si elle s'abstient lors des décisions à l'ONU au début du mois de mars concernant l'Ukraine, elle ne fait pas partie de ce bloc.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
François Luguenot, toujours le pont avec les matières premières agricoles. J'en ai parlé dans l'émission d'hier sans qu'on l'approfondisse. C'était la question des engrais, dont la production est évidemment liée à la question gazière. On parlait de l'Union européenne à l'instant qui souhaite établir un plafond pour le prix du pétrole à importer de Russie. Sur la question des prix des matières premières, il y a aussi cette problématique de régulation. Est-ce qu'il faut, d'après vous, réguler certaines matières premières ? Et si oui, lesquelles ?
Alors, en matière agricole, vous savez, les régulations de prix, c'est rarement des grands succès, que ce soit depuis des siècles. C'est Fernand Braudel qui disait que l'ancien régime n'avait légiféré sur aucun autre secteur autant que sur celui du blé. Donc, c'est dire que ce sont des sujets importants et pour les intrants aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit des grands succès, généralement, et les grands accords internationaux sur les produits agricoles ont tous, les uns après les autres, explosé au cours des 30 ou 40 dernières années. En ce qui concerne les engrais, bon, c'est vrai que l'Europe a délocalisé une partie de sa production d'engrais ailleurs que... c'est-à-dire ça venait d'Ukraine, ça venait d'autres régions. Et puis, bon, c'est vrai que les engrais azotés sont en particulier produits à partir de gaz, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui utilisent ces engrais. Là encore, je pense qu'il y a un problème de court terme et un problème de long terme. Le problème de court terme, c'est que le prix des intrants pour les agriculteurs a beaucoup augmenté. Cela dit, les producteurs de produits végétaux bénéficient aussi de prix de vente qui sont incroyablement plus élevés qu'il y a 2 ou 3 ans. Je veux dire, même si le blé ne part pas à 400 euros de l'exploitation agricole, il part à des prix sensiblement supérieurs à ce qui était le cas en 2019, ce qui compense en partie l'augmentation des charges. Bon, les charges, elles sont aussi, il n'y a pas que les engrais, il y a le carburant qu'on met dans le tracteur, il y a aussi les produits, les autres produits de traitement, parce que tout le monde en a profité, à tort ou à raison. Bon, donc à court terme, effectivement, face à certains systèmes de production, on se trouve parfois pris de court, et c'est encore pire parfois pour les éleveurs, dans un contexte où en plus on manque de fourrage, mais ça c'est la composante climatique. Et puis il y a le long terme, c'est-à-dire que, une réflexion à plus long terme, les agronomes par exemple de l'INRAE et d'autres savent très bien que la moitié des engrais azotés terminent dans les rivières et les nappes phréatiques et les plages. Parce que ce n'est pas utilisé d'une façon optimale. Il y a aussi une réflexion à avoir. C'est comme sur l'énergie. Ça sert à quoi d'éclairer des vitrines entre 23h et 4h du matin ? Ça sert à quoi de ceci ou cela ? Ça sert à quoi de déverser ? Parfois, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne suis pas en train de faire le procès de toute l'agriculture, ni même le procès de qui que ce soit. Mais il y a, dans le cadre d'une agriculture qui resterait assez proche de ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle ne peut pas, parce que le climat change trop vite, on peut déjà utiliser beaucoup mieux. Donc on peut réduire ses frais. C'est-à-dire, moi je parle avec des agriculteurs qui ont totalement modifié leur mode de production. Ils ont divisé leur puissance mécanique par 2, leur coût d'intrant par 2 ou 3, leur rendement ont un peu baissé, leur revenu a augmenté. Bon, mais pour ça, il faut être prêt à défier un certain nombre le politiquement correct d'un certain nombre de responsables. Ça n'est pas évident. On peut aussi se retrouver face à des oppositions assez fortes. Ça va être j'espère personnellement que ça peut être un puissant moteur à une accélération de la réflexion, à la remise en cause du système de production. J'aime beaucoup le propos d'un de mes anciens collègues qui dit il faut remettre de la complexité dans le système, c'est-à-dire que on comprend tout à fait qu'en termes de qualité de vie, en termes de baisse des coûts, etc., on ait pu, pendant 50 ans, faire blé sur blé ou blé sur colza, betterave dans pas mal de régions françaises. C'est fini. Enfin, c'est pas fini, on peut encore continuer à le faire. Et plus tard, on remettra le système en cause, plus rude sera la chute quand on pourra plus. Il y a des secteurs qui ont pris le sujet à bras-le-corps. J'admire que la viticulture ait entamé une réflexion sur l'évolution des cépages liés au réchauffement climatique depuis déjà de nombreuses années. On aimerait que dans d'autres secteurs, cette réflexion soit aussi avancée. Mmh. Ça n'est pas le cas, alors que les moyens financiers pour le faire sont néanmoins considérables. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de se dire que cette réflexion, cette impulsion qui est donnée par à la fois les prix des intrants et puis la crise climatique, il ne faut pas croire que c'est un monopole ouest européen. Hein. Les gens le ressentent plus ou moins fortement en fonction de leur système agricole, mais bien entendu que c'est quelque chose qui s'impose aux productions agricoles sur l'ensemble de la planète.
Alors, François Luguenot, quand vous dites remettre de la complexité dans le système, c'est finalement apporter de la diversification dans la production alimentaire.
Par exemple, c'est
ce que je dois entendre de ce que vous venez de dire.
Oui, c'est à la fois beaucoup plus réfléchir au contexte pédoclimatique local. Je veux dire, on a eu tendance, et c'était naturel, et encore une fois, il ne faut pas faire nécessairement le procès de ce qui s'est passé il y a 40 ans, mais à produire de façon assez uniforme, enfin, ou du moins d'adopter des modes de production uniformes sur l'ensemble du territoire. Bon, ben ça, je veux dire, il faut le remettre en cause, il faut s'adapter. On est dans une zone sèche, on est dans une zone humide, on est dans des sols profonds, des sols... Bon, bref, c'est de l'agronomie. Et deuxièmement, effectivement, en alternant, en complexifiant davantage, en multipliant les productions, d'abord, mieux gérer les problèmes d'intrants, les problèmes de produits phytosanitaires, les problèmes d'engrais. Enfin, faut pas oublier que le métier d'agriculteur, c'est la gestion du risque de production. Il gère un risque. Or, aujourd'hui, en faisant blé sur blé ou maïs monoculture, il gère de plus en plus mal son risque de production. Et on n'a pas été très sympa pour l'aider à gérer d'une autre façon, parce que ça convenait très bien à certains acteurs de lui vendre énormément de produits et de machines et de continuer comme ça. Donc, c'est effectivement diversifier les productions pour mieux gérer son risque, ce qui veut dire en aval que les structures doivent commercialiser de nouveaux produits. Mais ces nouveaux produits, ils peuvent aussi correspondre à une évolution de la demande alimentaire. Il ne faut jamais dissocier offre de la demande. Bien entendu que la population européenne, qui est pour une part assez riche, mais il ne faut pas généraliser. J'aime pas ce terme de fin de l'abondance, sachant qu'il y a des gens qui, quand même, sur la planète, et pas seulement à l'autre bout de la planète, n'ont jamais bénéficié de l'abondance. Donc je trouve que c'est très insultant pour eux de dire ça. J'aime pas du tout cette expression. Mais je veux dire...
Mettez l'église au centre du village.
Oui, exactement. Et puis, je veux dire, donc, il va y avoir une évolution. On va consommer moins de viande. Donc, je veux dire, on aura besoin de moins de céréales fourragères. Ces céréales, on pourra peut-être les exporter. Enfin, l'évolution, elle va être multifactorielle et elle va aller dans de nombreuses directions qu'il est très difficile évidemment de modéliser finement, mais c'est quelque chose qui se met mécaniquement en place. Et quand on refuse cette évolution au nom de certains prétextes, je veux dire, c'est à mon avis d'une irresponsabilité totale, parce que la chose va s'imposer.
Alors, sur la nécessité de diversifier la production alimentaire, je voulais vous relancer sur l'Afrique. Je n'ai pas le temps de le faire dans cette première partie d'émission. On vous retrouve après le journal, François Luguenot, avec nos autres invités, Yves Jégourel qui est avec nous par téléphone, Marc-Antoine Almazega et Jean-François Dimelio après le journal. À tout de suite.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr. Priorité santé. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Énergie et alimentation mondiale au prisme de la guerre en Ukraine. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Bordeaux. Yves Gégourel, co-directeur du Cercle Cyclope, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire économie des matières premières. En studio, Jean-François Dimélio, président d'Asia Centre, Marc-Antoine Heil-Matzega, directeur du Centre énergie et climat de l'IFRI, et François Luguenot, analyste de marché de matières premières agricoles et directeur de FL Consultant. François Luguenot, on a terminé la première partie de l'émission sur la nécessité que vous évoquiez de diversifier la production alimentaire. C'est évidemment un message qui s'adresse aussi à l'Afrique.
Oui, bien entendu. Alors, je crois qu'il faudrait cesser de penser que nous avons des leçons à donner en permanence aux pays africains. C'est très désagréable pour tout le monde. Néanmoins, oui, il y a un vrai sujet qui est celui d'abord du choix entre les cultures pour soi et puis les cultures d'exportation. Mmh. Et clairement, bon, et là-dessus, nous ne sommes pas... nous avons une part de responsabilité, même si ça n'est pas non plus que négatif, mais... Je veux dire, c'est bien de produire des mangues pour l'exportation en Europe, mais enfin, peut-être aussi qu'on pourrait produire pour sa propre population. Donc, il y a deux composantes qui s'imposent. La première, bon, je ne les hiérarchise pas, ça va être encore aussi une fois le changement climatique. Je veux dire, l'Afrique subsaharienne va continuer à se désertifier un peu plus dans des zones où les prévisions de l'ONU sont terribles, quoi. Je veux dire, on nous annonce 1 milliard d'individus entre l'Angola et le Niger, dans une zone qui se désertifie, qui est la proie des terroristes. C'est humainement effrayant. C'est au-delà même de l'agriculture. Dans d'autres zones, il y a d'autres perspectives. Mais l'Afrique va probablement être la zone du monde où il va y avoir la plus grosse croissance de population. Et dans certaines zones, la transition démographique, c'est toujours pas vraiment faite, alors qu'on l'espérait. Donc ça, c'est tout l'inverse de la Chine et de la Russie qui se dépeuplent. De l'autre côté, bon, il y a effectivement cette composante climatique qui fait que il va falloir, là aussi, produire différemment et consommer différemment. Mais, à la différence de l'Europe ou des États-Unis, nous sommes dans une zone où il y a encore un potentiel d'enrichissement et donc d'envie de manger autre chose que simplement du mil, qui est formidable. Enfin, dire, nous, c'est quelque chose qu'on a connu au cours du XXe siècle. Hein. Ceux d'entre nous qui ont eu de la famille proche et récente dans les campagnes se souviennent, en Bretagne, qu'est-ce qu'on mangeait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans bien des cas, c'était matin, midi et soir de la bouillie de sarrasin. Pourquoi est-ce qu'ensuite, quand on a pu arrêter de produire du blé noir en France, on l'a fait parce que c'était le symbole de la misère et qu'aujourd'hui, les galettes sont faites avec du blé noir plutôt importé de Chine. Donc, il y a aussi cette transition qui est très forte, c'est un moteur et il va falloir de toute façon, effectivement, développer à la fois les importations et les productions locales. Et puis, il y a aussi une composante qu'on oublie trop facilement quand on réfléchit comme ça, quand on dit diversifions les productions, montons en gamme, faisons des bonnes fraises et des bonnes tomates. Enfin bon, ça, c'est un peu à propos de café du commerce. N'oublions pas que pour revenir chez nous, quel est le revenu médian en France ? Il est de 2000 euros par mois, c'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui gagnent 1500, 1800 euros par mois. On va dire à ces gens-là que désormais, leur beurre, leurs tomates, leurs fraises, parce que c'est mieux produit, il va falloir les payer 20% plus cher. Mais déjà, avec l'inflation alimentaire actuelle, ils sont étranglés. Et le même problème se pose à encore un degré bien plus important en Afrique, où on sait que dans pas mal de pays, par exemple, les aliments de base comme le pain sont subventionnés. Moi, je n'ai pas la solution, mais je constate qu'il va falloir évoluer dans le secteur de la production agricole, faire mieux. Si les gens doivent travailler davantage et doivent prendre plus de risques, ce serait normal que la rémunération augmente, donc le prix des produits. Et en face, les revenus des gens qui achètent, eux, ne sont pas extensibles. Cette réflexion-là, je voudrais l'avoir nettement plus prise à bras-le-corps et j'avoue que je suis assez déçu.
Yves Gégourel, je me tourne vers vous et on reviendra ensuite aux questions énergétiques. Vous invitez l'Union européenne à mettre en œuvre une véritable diplomatie des matières premières qui permettrait d'abord d'assurer la sécurité alimentaire mondiale et puis de lutter contre le réchauffement climatique.
Tout à fait. Je pense que dans notre arsenal d'outils pour régler les problèmes de notre monde, il faut aller vers cette diplomatie des matières premières. Et le point de départ, c'est une utopie, ou en tout cas c'est un retour sur l'histoire, c'est de dire, mais finalement, quand on regarde les matières premières, on les regarde toujours dans le rapport à la guerre. Et on ne compte pas le nombre d'articles ou d'ouvrages autour de la guerre de ci, la guerre de ça, toujours en référence aux matières premières. Et je pense qu'en fait, il faut totalement changer ce paradigme. On a, au regard de l'histoire, étudié les conditions de déclenchement de la guerre, mais je pense qu'on n'a pas, je ne suis pas un historien, mais on a moins étudié les conditions de l'établissement de la paix. Je pense que c'est la même chose sur les matières premières. Les matières premières sont vues dans leur rapport au conflit, alors qu'on devrait essayer de travailler, c'est un chantier immense, pour voir ces matières premières, dans une logique évidemment multilatérale, comme une des conditions de la concorde mondiale. Et une des questions que ça appelle, c'est évidemment de considérer les matières premières dans leur transversalité. On parlait à l'instant des engrais, c'est l'exemple type, c'est-à-dire que c'est une ressource minérale qui va être produite, je pense à l'urée notamment, en utilisant du gaz naturel, donc on a un lien très clair avec l'énergie, et ça va impacter les prix agricoles. Dans les négociations multilatérales, on cherche aujourd'hui à sécuriser nos approvisionnements en Europe, aux États-Unis, à sécuriser nos approvisionnements en ressources minérales. Qu'est-ce que l'on peut donner en échange? Est-ce qu'on ne peut pas entrevoir des partenariats dans les politiques agricoles de ce point de vue-là? Ça, je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et juste pour terminer, je pense qu'il faut inclure tous les pays dans ces négociations. C'est vrai, ce qu'a dit François, que les grandes tentatives autour de la régulation des marchés mondiaux, et je ne pense pas que ce soit la bonne solution, ont souvent échoué, mais le périmètre qui a été donné était souvent réduit à un faible nombre de pays, notamment sur les dernières initiatives agricoles qui datent sur le G20, il faut mettre plus les pays en développement dans cette logique-là. Et peut-être que la problématique n'est pas tant de peser sur les prix que de revenir à ce multilatéralisme. Aujourd'hui, le multilatéralisme est malade, mais peut-être parce qu'il ne traite pas suffisamment des problématiques matières premières. Et juste pour terminer, moi, il me semble que cette phrase, je comprends qu'elle soit choquante, et François a raison là-dessus, mais cette phrase de la fin de l'abondance, alors j'aurais plutôt dit la fin du mythe de l'abondance, c'est une phrase importante parce que dans ces échanges internationaux, dans cette diplomatie des matières premières, c'est quelque chose qui est essentiel. La sobriété que l'on doit avoir sur les décennies à venir touche bien évidemment l'énergie, touche bien évidemment notre consommation en eau, mais touche l'ensemble des ressources naturelles. J'ai pour image une photo de Joe Biden qui pose devant un véhicule électrique de près de 4 tonnes, avec l'idée que c'est le renouveau de l'industrie automobile. Il y a un rapport entre l'énergie et la masse. La sobriété, c'est revoir nos modes de transport, revoir probablement la taille de nos automobiles. Enfin, c'est vraiment un chantier immense. Et cette phrase sur la fin de l'abondance nous appelle à cet éveil de conscience.
Marc-Antoine Heilmann-Zega, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être avec sous le prisme, bien sûr, énergétique par rapport à ce que vient de dire Yves Jégourel? Et ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu des gagnants. On l'a rapidement abordé précédemment, les gagnants de la situation actuelle, Marc-Antoine Heilmann-Zega.
Absolument. Je crois que les crises actuelles montrent à quel point on reste très dépendant aux énergies fossiles et à quel point, en fait, on est très peu avancé dans le long processus de transition énergétique. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que dans le reste du monde, dans la plupart des autres pays dans le monde, la transition énergétique n'a pas commencé. On est au mieux en situation de diversification énergétique. Donc ça veut dire on ajoute des énergies renouvelables à des capacités charbon, à des capacités gaz, à du pétrole. Et parce qu'en fait, on répond à une urgence qui est celle de la croissance démographique, de la croissance économique très forte, et donc d'une croissance des besoins en électricité dont on n'a aucune mesure chez nous, parce qu'on sort de 15-20 années d'une demande à tonnes qui ne bouge pas d'une année sur l'autre. Or, vous avez des pays où la croissance de la demande d'électricité, c'est 10% par an, avec des enjeux colossaux. Et comment est-ce qu'on répond à ces besoins? Avec toute la panoplie, mais on n'a pas encore commencé à sortir du charbon dans le reste du monde. Au contraire, là, on vient de le prolonger. Alors, on a sans doute ralenti l'investissement très fortement dans de nouvelles capacités charbon, sauf en Chine, malheureusement. Enfin, là aussi, les chiffres sont bien moins élevés que ce qu'on a connu ces dernières années. Mais dans l'ensemble, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Et je crois que ces crises le montrent aussi. montre à quel point, en fait, les éoliennes et les panneaux solaires que l'on voit et les quelques véhicules électriques, tout cela masque la réalité des systèmes énergétiques, l'inertie très forte de ces systèmes énergétiques. Et donc, je crois que ce que disait Yves là est très important. C'est effectivement, sans doute, maintenant le moment de revenir à un dialogue avec les pays producteurs, etc., pour essayer d'accompagner le mouvement vers un plafonnement de la demande de pétrole, pour essayer d'accompagner les investissements, pour éviter qu'il y ait des chocs trop importants et pour eux et pour nous. Parce que, au fond, les pays du Moyen-Orient ont désormais adopté aussi un objectif de neutralité climatique. Ils prennent ça quand même relativement au sérieux. Ils voient une opportunité de diversification industrielle. Et sans vouloir préempter le débat qui suit, mais ce sont les grands gagnants de cette affaire-là. Et d'une certaine façon, les crises que l'on vit actuellement, entre 2020, c'est un effondrement des revenus pour les producteurs qui paniquent. 2022, ils sont les grands gagnants de cette affaire-là. Nous sommes les grands perdants. Eh bien, en fait, ce genre de choc, évidemment, au fond, nous nuit à tous. Donc, peut-être, effectivement, la nécessité de chercher des moyens d'organiser ces prochaines 20 années pour, finalement, plus de stabilité mondiale.
Alors, François Luguenot.
Oui, juste un point dans ce que vient de dire Marc-Antoine, qui est très important, c'est en fait... C'est la difficulté de mettre l'un en face de l'autre les micro-comportements individuels et les grandes tendances. Et c'est vrai qu'on est tous tentés de voir les choses à un point de vue macroéconomique, les grands acteurs, les grands investissements, les grandes décisions. Et en même temps, n'y voyez pas une connotation politique. Et dans le même temps, je veux dire, le comportement de chacun, de chaque agriculteur qui va décider de son assolement différent de celui du voisin, de chacun qui va décider d'éteindre, de mettre des panneaux solaires sur son toit, cette somme de comportements individuels est absolument déterminante quand même, une fois qu'on en a fait la somme, sur l'impact global pour un pays. C'est pas évident de penser la cohabitation entre les deux tendances. C'est-à-dire qu'il faut pas se déresponsabiliser en disant il y a quelqu'un qui, au-dessus de moi, prend une décision pour investir ou pas dans le nucléaire, l'éolien ou autre, moi je m'en fiche et je continue à consommer. Et il y a en même temps un comportement individuel qui va être d'alimenter ses animaux, d'allumer sa lumière et qui, sur la somme des millions d'habitants, a un impact monstrueux.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Pour en revenir aux questions énergétiques de cette deuxième émission consacrée à cette thématique énergie et alimentation mondiale, vous l'évoquiez à l'instant, Marc-Antoine Almazega, concernant les grands gagnants producteurs du Moyen-Orient. Il y a aussi, pour le GNL, le gaz liquéfié, les États-Unis et l'Australie.
Oui, les États-Unis... étaient sur le point de se hisser au premier rang des exportateurs de GNL dans le monde. Ils vont le faire, ils vont dépasser le Qatar et l'Australie. Et notre sécurité énergétique aujourd'hui dépend des États-Unis. Pour l'Australie, c'est une autre affaire d'une certaine façon, parce qu'ils sont les premiers exportateurs de charbon au monde. Ils ont le gaz naturel liquéfié qui est plus vertueux quand même que le charbon, mais enfin qui ne représente en termes d'émissions évidemment toujours un vrai fardeau si l'on compare ça aux enjeux de la neutralité climatique. Mais vous avez un pays comme l'Australie qui dispose d'un potentiel de production d'énergie renouvelable, j'allais dire illimité, et qui surtout dispose de ressources minières absolument considérable. Ils ont quasiment la totalité du tableau de Mendeleïev. Et tous ces éléments-là vont être cruciaux pour les transitions énergétiques et digitales. Mmh. Et donc, c'est sûr que ce pays-là est absolument stratégique et il est situé dans une zone stratégique puisque le centre du monde est désormais là-bas. Et donc, vous avez raison d'insister là-dessus. L'Australie, qui a changé de Premier ministre et de gouvernement, se positionne aussi comme un atout et surtout aussi pour nous un partenaire important. Mmh.
Jean-François Di Miglio, donc l'Australie, dans cette région du monde, va se voir renforcée peut-être dans sa position régionale, ne serait-ce que face à la Chine. Et l'autre sujet d'inquiétude, sans vouloir rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude, je pense qu'on a suffisamment parlé de choses préoccupantes dans cette émission, ce que fait la Russie depuis quelques mois avec les questions gazières à l'encontre de l'Union européenne, la Chine, grande détentrice de terres rares. Ça peut être aussi, je ne vais pas dire le volet suivant, mais en tout cas, tout cela montre la nécessité de se préparer aux crises qu'on n'a pas vues venir. Dieu sait que les Russes avaient peut-être envoyé des signaux que les Européens n'ont pas su voir, Jean-François Dimélieu.
Oui, alors écoutez, je crois qu'on baigne, comme vous l'avez souligné, dans un des eaux très pessimistes depuis tout à l'heure, mais et il faut revenir à des fondamentaux. François nous a renvoyé à des fondamentaux qu'on a trop tendance à oublier, qui sont les fondamentaux démographiques de l'Afrique, les fondamentaux des matières premières agricoles, c'est extrêmement important. On a rééquilibré effectivement nos perspectives qui avaient tendance à être un peu trop abstraites dans ce monde d'abondance dans lequel nous étions. Néanmoins, le mot de digital vient d'être prononcé et peut-être que sans être un chantre du digital, je me dis que nous avons aussi des ressources dans des domaines où nous-mêmes nous sommes effectivement en avance, ou en tout cas très bien positionnés, puisqu'on a parlé d'énergie, l'économie d'énergie, et puisque vous avez parlé de terres rares aussi, tout ce qui concerne la numérisation de nos économies, c'est aussi en lien direct avec les matières premières. C'est en lien direct, comme vous l'avez dit, à cause des terres rares. Simplement sur les terres rares, la Chine ne peut pas jouer à plein l'arme des terres rares, parce que si vous regardez les exportations de la Chine aujourd'hui, eh bien, elles ralentissent. Le seul moteur de la croissance chinoise pendant des années, malgré les efforts des dirigeants chinois, ça a été les exportations. Si en plus, elle contraint ses exportations, elle va se tirer dans le pied. Donc, sur le sujet des terres rares et du coup, sur l'implication du propre développement des économies occidentales dans le numérique, je serai beaucoup plus réservé. Et ma note d'optimisme, justement, elle vient sur l'importance que nous connaissons aussi, indépendamment de l'importance des matières premières et des fondamentaux, sur, j'allais dire, le progrès. Je ne veux pas être, encore une fois, un chantre du positivisme et du progrès, mais tout ce que peut nous apporter la numérisation de l'économie, et ce n'est pas un hasard, si l'un des conflits planétaires dont on n'a pas parlé, conflit potentiel, c'est entre la Chine et Taïwan, du fait que c'est à Taïwan que se crée la numérisation de demain. Les problèmes que nous avons évoqués, ce sont des problèmes très profonds. Néanmoins, quand on parle d'économie d'énergie, quand on parle d'efficacité énergétique, quand on parle aussi d'optimisation des ressources agricoles, eh bien, il y a aussi une part d'optimisation qui passe par les systèmes, par la planification aussi. Et tout ça, ça n'est pas totalement déconnecté de la numérisation de l'économie qui peut être une des solutions à l'ensemble des problèmes très très ancrés dans le concret que nous avons vu. Encore une fois, il ne s'agit pas de trouver une échappatoire. Et donc, pour parler des gagnants et des perdants, je ne suis pas sûr, encore une fois, que les pays très avancés, les pays comme les États-Unis, les pays comme l'Europe, et peut-être les pays qui produisent effectivement ces puces et ces logiciels, soient nécessairement des perdants, au prétexte que dans le court terme où nous sommes aujourd'hui, l'importance des matières premières, le prix de ces matières premières, nous met dans une position délicate. Si nous sommes capables, ce qui n'est pas encore gagné, de surmonter cette phase difficile, en particulier du fait des sacrifices qui seront imposés, on a encore énormément de cartes à jouer.
Alors, en guise de conclusion, le point de vigilance le plus absolu dans tout ce que nous avons évoqué depuis deux jours sur ces thématiques énergie et alimentation, c'est bien évidemment le climat. Je vous laisse conclure peut-être Yves Jégourel qui est par téléphone depuis Bordeaux.
Oui, écoutez, la transition environnementale, c'est quoi? C'est plus d'électromobilité, c'est plus de véhicules électriques et c'est plus de transport électrique. Donc à chaque fois, de manière systématique, ce sont des ressources minérales, ce sont les terres rares que nous venons d'évoquer pour les aimants permanents dans les éoliennes, c'est le cobalt, le lithium, le nickel dans les batteries des véhicules électriques et donc le cuivre. Donc on a aujourd'hui un changement de paradigme. L'Europe a une stratégie, cette fois offensive, elle a mis du temps à réagir, mais elle a une stratégie ambitieuse de ce point de vue-là. La lecture que je porte, c'est qu'il faut à la fois avoir une stratégie industrielle, une stratégie financière et une diplomatie qui permette d'accompagner, d'assouplir ces problématiques.
Merci Yves Jégourel. Je rappelle que vous êtes co-directeur du Cercle Cyclope, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire économie des matières premières. Était avec moi au studio et je les remercie également Jean-François Dimélieu, président d'Asia Centre, Marc-Antoine Heil-Matzega, directeur du Centre énergie et climat de l'IFRI et François Luguenot, analyste de marché de matières premières agricoles et directeur de FL Consultant. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.